Frédéric Boyer, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes réunis par la magie de la technique, hein, vous à Paris, moi à Bordeaux, pour parler de votre dernier ouvrage. Donc merci d'être venu chez Mola pour parler des évangiles. Voilà un magnifique sujet. Vous avez donc publié chez Gallimard, dans la collection Blanche de Gallimard, une nouvelle traduction des évangiles. Un texte impressionnant, enfin une série de textes impressionnants. Vous êtes donc écrivain, vous n'êtes pas théologien, mais vous êtes écrivain, mais vous avez une longue pratique des textes religieux. Vous avez notamment, c'était il y a environ une vingtaine d'années, dirigé pour Bayard, les éditeurs Bayard, une traduction collective. De la Bible, donc des livres de la Bible. Alors, je ne vais pas évidemment tous les citer, hein, de la Genèse jusqu'au livre prophétique. Vous aviez demandé toute une série d'écrivains de vous aider donc à offrir une nouvelle traduction de la Bible, une traduction plutôt littéraire, on va dire. Aujourd'hui, donc, vous récidivez avec les évangiles. Entre-temps, vous êtes quand même intéressé aussi à saint Augustin. Je me borne à citer des textes finalement qui peuvent faire écho à celui-ci. Donc, les confessions de saint Augustin, un grand texte chrétien du 5e siècle que vous avez donc retraduit d'ailleurs sous un autre titre, les aveux. Hein. Ce n'est pas les confessions de saint Augustin, c'est les aveux de saint Augustin. Alors, on ne va pas parler de saint Augustin maintenant, mais évidemment, ça serait intéressant peut-être d'y faire écho. Les quatre évangiles, donc l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean, ce sont les quatre évangiles dits canoniques, parce qu'il y en a eu bien d'autres, mais qui n'ont pas été retenus par l'Église comme des textes de référence. Voilà. En tout cas, ces textes, vous y êtes réattaqués. La première question que j'aimerais vous poser, Frédéric Boyer, c'est de savoir pourquoi retraduire les évangiles d'aujourd'hui. J'ai envie de vous précéder dans la réponse, et puis après je me tairai, je vous laisserai parler. Vous avez dans une passionnante introduction de cette traduction, environ 80 pages serrées et passionnantes, il y a à la fin un petit paragraphe que j'ai envie de vous lire que nous entendions. C'est un envoi. Vous dites, on ne peut plus vivre uniquement dans les traductions d'autrefois. Traduire, c'est remettre en jeu notre tâche de locuteur devant la vie et les autres, mais aussi parfois pour la vie d'autrui. C'est une question vitale de rencontre. Je te veux à moi dans ma langue d'aujourd'hui. Je te veux à moi dans cet effort désespérant où plus je te parle dans ma langue, plus tu vacilles et sembles t'éloigner quand soudain c'est toi qui me reprends avec mes mots et ma syntaxe en souffrance, quand soudain tu apparais sur le seuil contemporain comme revenu d'ailleurs. Tu as alors quelque chose à m'annoncer. Te traduisant, je vois que tu t'avances en témoignant pour moi. Voilà, alors j'aimerais que vous peut-être me commentiez ce très beau texte qui donne sans doute sens à la tentative que vous avez faite de retraduire les évangiles.
Oui, parce qu'on a toujours un sentiment par rapport à la traduction, un sentiment un peu d'un devoir obligé et de considérer qu'une fois que le texte est traduit, eh bien finalement, on a une version dans sa langue et tout va bien. Or, en fait, la traduction est quelque chose de beaucoup plus profond dans l'histoire d'une culture. Et même, je dirais même qu'en tout cas pour nous, pour notre civilisation, traduire a été même un moteur de civilisation. Alors parfois d'accaparement, de rapt, hein, d'autres textes, d'autres cultures qui passent comme ça dans une traduction qui est aussi parfois un rapport de violence à une traduction quand vous traduisez l'autre pour l'assimiler ou pour l'interpréter à votre façon. Mais la traduction, c'est aussi un moment de rencontre exceptionnel. Par exemple, tout le monde gréco-latin est un monde, donc ça nous rapproche déjà des évangiles, est un monde de traduction. C'est-à-dire la culture latine est incompréhensible si on ne comprend pas que c'est une culture qui a été une culture de transposition, de traduction, de rencontre avec tout l'hellénisme et même d'autres cultures, effectivement. Et au cœur de la traduction, il y a un peu ce que j'essaye d'exprimer dans ce texte, c'est-à-dire un désir profond de rencontre, mais qui est difficile puisque il s'agit de passer à la fois d'une langue à l'autre, mais aussi d'une culture à l'autre, d'une époque à l'autre. Et on ne peut pas imaginer, en tout cas pour moi, une culture vivante si cette culture ne fait pas l'effort toujours de se remettre à cette tâche de réécouter les textes qui l'ont précédé, de réinvestir des langues qui peuvent avoir disparu, en tout cas que l'on appelle improprement des langues mortes, comme là le grec par exemple, ou le latin ou d'autres langues. Et puisque de ce travail dépend aussi la propre compréhension de nous-mêmes, si vous voulez. Voilà, c'est en s'intéressant aux autres, en s'intéressant à d'autres cultures, à d'autres textes, même à des textes qui peuvent vous sembler très éloignés de vous, comme les évangiles, qui peut-être ne parlent plus à grand monde aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas. Mais en vous réintéressant à ces textes, vous allez faire entendre quelque chose, peut-être une parole que vous avez oubliée ou que vous ne connaissez pas, que vous ne soupçonniez pas. Voilà.
Alors toute la difficulté évidemment, c'est d'abord d'affronter ces textes qui font partie de du fondement même de notre culture, donc ils sont très impressionnants en eux-mêmes. La difficulté aussi, c'est que le Jésus dont il est question, qui est le personnage central des évangiles, était donc un jeune rabbin galiléen donc du 1er siècle, dont la langue commune était l'araméen, mais qui comprenait aussi l'hébreu, puisqu'il était un maître de sagesse, hein, qu'il avait la compréhension et la connaissance des textes du judaïsme. Mais ces quatre évangiles, pour autant qu'on sache, ont été écrits en grec. Peut-être pas l'un d'entre eux, je crois celui de Matthieu, a peut-être été traduit en grec, mais en tout cas les autres ont été écrits donc après la mort du Christ, donc dans la langue qu'on appelait la koiné à l'époque, c'est-à-dire un grec véhiculaire, un peu comme serait peut-être notre globiche anglais aujourd'hui, espèce de langue mondiale. C'était en tout cas la langue du monde méditerranéen, ce grec, et donc pour que ces textes aient une postérité et donc une diffusion, il était important que ces témoignages soient retranscrits en grec. Et ensuite ces textes nous sont parvenus non pas en grec, mais d'abord par le latin, par Saint Jérôme, et puis ensuite traduits dans les langues vernaculaires de l'Occident et du reste du monde. Et donc il y a comme ça plusieurs filtres qui nous séparent de la langue originelle. Alors vous êtes revenu, vous êtes un helléniste, fin helléniste, d'ailleurs vous le montrez dans votre traduction, vous allez vraiment à la source du grec. Quelle a été la difficulté pour vous? Est-ce que c'était de réaccéder au texte grec lui-même et à sa subtilité, ou est-ce que c'était de passer à travers tous ces filtres dont je viens de parler?
Ah ouais, c'est une belle question. C'est effectivement la première difficulté, en fait, face à des textes comme cela, c'est de passer à travers les filtres, comme vous dites, de pas rester un peu accroché à une réception qui est déjà là, pour des tas de raisons, parce que chaque réception est déjà une compréhension en soi. Et donc, si l'on veut revenir à quelque chose, si on veut revenir à une parole un peu première, mais surtout si on veut même faire cette expérience soi-même, c'est-à-dire redécouvrir un peu le texte pour soi d'une certaine façon, eh bien, effectivement, il faut essayer de passer à travers ces filtres. Il faut essayer un peu d'oublier ce qui nous a précédé, même si c'est compliqué, et de se poser quelques questions. Moi, c'est finalement assez simple aussi. J'ai voulu traiter ces textes d'abord, avant tout, comme des textes littéraires. Voilà. J'ai cherché effectivement d'abord à écouter la langue, la voix de ces textes dans ce grec effectivement dit de la koiné, comme vous avez dit, bon, qui est en même temps un état du grec intéressant, hein. C'est pas simplement, c'est vrai que c'est le comparer au globish, bon, c'est juste, mais la fonction de cette langue à l'époque avait une fonction aussi culturelle éminente. C'était pas simplement une langue.
Non, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas le grec de Platon ou le grec de Sophocle, voilà,
de Platon, effectivement. C'est un grec, bon, c'est ce que j'essaye d'expliquer un peu aussi, c'est un grec de la diaspora, en tout cas pour les milieux juifs dans lesquels vont naître ces textes. C'est un grec d'exil, c'est un grec de diaspora, c'est un grec qui est ouvert effectivement aux autres cultures, aux autres langues. Donc du coup, c'est déjà une langue de traduction, ce grec dans lequel ont été écrits les quatre évangiles. Bon, et même... Quand vous lisez le texte des évangiles, des quatre évangiles d'ailleurs, vous entendez la traduction, puisque souvent vous avez dit que Jésus était un rabbi. Comment le sait-on? Mais parce que les évangiles eux-mêmes disent qu'il est un rabbi en employant le mot hébreu ou le mot araméen. Et donc, en donnant un signal pour dire qu'effectivement, ces textes écrits en grec sont des textes qui travaillent sur l'exil, sur la traduction d'un milieu, effectivement, qui était le milieu hébraïque et araméen du judaïsme de l'époque en Judée-Galilée. Mais en même temps, c'est un milieu qui était, en quelque sorte, sous influence très large de ce qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire de toutes ces grandes communautés juives qui vivaient en terre étrangère, en langue étrangère, que ce soit en Égypte, en Perse, en Grèce, etc. Et c'est ce milieu-là qui va faire naître le christianisme, hein, d'ailleurs. C'est ce milieu de diaspora qui va faire naître le christianisme. Donc, ces textes sont au cœur, comme ça, d'un enjeu de traduction, de rencontre culturelle, en quelque sorte, et de passage. Voilà. C'est ce qui rend ces textes, je trouve, moi, très émouvants et très importants, puisque ils naissent dans une culture qui est la culture hébraïque, la culture d'Israël, qui était déjà fortement, d'une certaine façon traumatisée, hein, puisque on est dans un,
on est dans une période de crise, de crise intense, de crise.
Voilà, c'est une période de crise intense pour le judaïsme de l'époque qui dure déjà depuis presque 200-300 ans. C'est un judaïsme qui est divisé, qui est éclaté, qui a été soumis à de nombreuses dominations, la domination perse, la domination grecque et la domination romaine. Ce judaïsme s'interroge. On est dans une grande attente messianique et un mouvement apocalyptique qui d'ailleurs divise les différents courants. Et c'est ce qui rend passionnant ces textes, puisqu'ils sont en quelque sorte, c'est les premiers textes qu'on a et c'est peut-être les seuls que l'on ait véritablement qui sont témoins de cette crise à la fois spirituelle, culturelle, historique, comme ça, de ce monde-là, et qui est non seulement le monde, donc le monde d'Israël, ce monde hébraïque, qui est un petit monde, en fait, à l'époque, hein, mais en même temps, de tout ce monde de la diaspora, et qui va connaître des soubresauts très importants. Et c'est dans ce monde-là, de l'exil, de ces communautés juives que va naître en lien avec d'autres peuples et d'autres cultures et d'autres langues que naîtra ce qu'on appellera le christianisme.
Il faut rappeler que le temple, le temple de Jérusalem a déjà été détruit plusieurs siècles auparavant.
Il a été restauré.
Il sera détruit une nouvelle fois, donc une quarantaine d'années après la mort du Christ. Donc le peuple juif est là dans une période de, comme vous l'avez dit, de crise, de doute, d'interrogation qui sont d'ordre presque métaphysique. On a parlé de la langue grecque qui est cette langue véhiculaire, mais la Judée, la Galilée sont aussi sous domination romaine, donc on peut supposer aussi que le latin circule. Enfin bon, voilà. Donc c'est un espèce de mélange. Il y a un mélange de cultures, de langues très intéressant. S'agissant des évangiles, pour en revenir à eux, ces évangiles donc ont été écrits en grec, mais on n'en possède pas de manuscrits, hein, ou très peu, des manuscrits très tardifs. Et donc ce que vous dites, c'est que nous avons quelques manuscrits qui ont permis donc l'établissement des textes, mais qu'au fond, les évangiles que vous nous produisez, vous, sous une forme écrite, mais ce sont des textes qui étaient faits aussi pour être scandés, pour être parlés et qui venaient de la tradition orale. Et donc, il y a ce que vous insistez beaucoup sur le fait que l'écrit et l'oral, s'agissant de ces textes, s'épaulent l'un l'autre. Alors, comment s'articule la tradition orale et la tradition scripturaire pour la confection de ce corpus de textes sacrés?
Mais d'abord, c'est une chose qu'on a oubliée, nous. Voilà. On a progressivement établi une distinction extrêmement sévère, d'une certaine façon, entre l'oralité et l'écrit, au point même que ces deux traditions, finalement, se sont disjointes, en quelque sorte, pour nous, hein, aujourd'hui. Alors que dans toute l'Antiquité, même pour Homère, par exemple, hein, la tradition homérique, c'est d'abord une tradition orale, une tradition d'aède. Et je fais cet exemple-là parce que je pense que ça aide à comprendre ce qu'ont été les évangiles.
Vous parlez d'Homère, d'ailleurs, à certains moments. Vous parlez d'Homère, hein, de temps en temps.
Ce sont des traditions d'aède, donc de poètes, de chanteurs, de conteurs. Hein, et c'est ces traditions qui ont été, en quelque sorte, rassemblées, agglomérées, pour constituer l'ampleur de la geste homérique. Voilà. Les évangiles, toute proportion gardée, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est d'abord une tradition orale. D'abord, parce que c'était une tradition de prêche, de sermon. C'était une tradition aussi de c'était la force de la tradition orale, puisqu'on est dans un milieu et dans un monde où peu de gens accèdent à l'écrit et à la lecture. Donc, la transmission se fait par l'oralité, par la rencontre, par des... et effectivement, on se met à raconter, on peut imaginer qu'on s'est mis à raconter, en quelque sorte, les paroles, la geste, comme ça, de ce jeune rabbi, dans certaines petites communautés, et que cette transmission orale, ben, comme la tradition des aèdes, comme plus tard la tradition aussi dans le monde médiéval de la chanson de geste.
Des troubadours et des trouvères.
C'est des conteurs, voilà, des troubadours, des trouvères, c'est des conteurs qui racontaient à un public oralement ces traditions et ces traditions. Et donc, tout est fondé sur une sorte de mémoire orale. Mais la mémoire orale, c'est pas n'importe quoi. Il y a beaucoup d'expériences, d'ailleurs, qui ont été faites et d'études qui ont été faites pour montrer que cette mémoire orale n'était pas une passoire, comme on peut le penser aujourd'hui, mais que au contraire, elle répondait à des codes précis et que, par exemple, c'est ce qui va donner la force au langage poétique, hein, qui est un langage d'abord pour que on se souvienne de ce qui est dit, de ce qui est raconté par le rythme, par les mots, par les mots. Bien, la tradition évangélique, elle s'est constituée comme ça. Et quand vous découvrez aujourd'hui, enfin, le texte évangélique, alors écrit, vous vous rendez compte très vite que ce texte est effectivement présente toute une série de témoignages ou de marqueurs, si on peut dire, de l'oralité. Voilà. Un peu comme chez Homère. Alors, je prends toujours ce petit exemple parce que c'est un des plus faciles. Il y a une petite préposition en grec, kai, là, le kai, qui veut dire qu'il y a une coordination, un intensif. Les hellénistes distingués disent que c'est un intensif de la parole. Voilà, ce kai, vous le trouvez chez Homère, presque dans tous les vers homériques, il y a ce petit kai qui vient comme pour frapper la parole, comme pour dire, voilà, là, on prend la parole, on dit quelque chose recommence, ou pour briser le rythme ou articuler le rythme. Eh bien, dans les évangiles, c'est pareil. Vous avez à presque tous les versets des petits mots comme ça, comme le kai et d'autres aussi, qui signifient que la parole est prise, que la parole s'intensifie. Et aussi, pour ce sont toute une série de mots qui mettent en scène l'acte de parole. Voilà, ça peut être, alors moi j'ai traduit ça, ça peut être des exclamations, ça peut être des coordinations très intensives et répétées, ça peut être aussi des locutions comme « et pendant ce temps-là » et « alors il arrive à que » qui sont toute une série de locutions orales pour captiver l'attention, pour relancer le récit. Et la langue évangélique, dans ce grec de la Koiné, est une langue qui est marquée par l'oralité. Mais parce que les deux ne s'opposaient pas, effectivement, et que le texte écrit, il avait quelle mission ? Il avait la mission d'être lu. Voilà, oralement. C'est-à-dire, il y avait très peu de gens, même au 2e, 3e siècle de notre ère, qui lisaient les textes et les manuscrits. Donc ces manuscrits étaient là pour être lus. Plus j'ajoute que ces textes vont avoir une mission, vont avoir une fonction liturgique, et la liturgie, c'est aussi l'oralité, c'est-à-dire à ce moment où, lors d'un rite, lors d'une réunion, lors d'une assemblée, on prononce les paroles, on prononce les rites. Donc cette littérature est marquée par l'oralité, et finalement le but de ces textes était de restituer en quelque sorte la force orale de ces récits, puisque, et j'en finis avec ça, en tout cas, c'est ce qui m'a frappé, c'est ce que j'ai voulu souligner le mieux possible, c'est que ces textes sont écrits pour agir. Ouais. Il y a aussi quelque chose de très beau, de très fort, d'ailleurs, dans ces textes. Ces textes sont là pour rendre à l'action, si vous voulez, pour rendre à l'action.
Alors,
raconter...
On va évoquer ce côté un peu performatif, hein, de la langue de l'évangile. Mais vous avez prononcé vous-même le mot littéraire. Hein. Vous avez dit que ma traduction elle est littéraire. Alors je crois qu'il faut pas se tromper là. C'est pas parce que vous faites une traduction littéraire que vous ne faites pas une traduction qui serait pas horrible aux oreilles des croyants qui se font une certaine idée des évangiles en disant Frédéric Boyer a voulu faire des évangiles, un poème, quelque chose de détaché finalement de notre credo, etc. Donc je crois que là il faut pas se tromper, c'est pas tellement de ça dont il s'agit. Vous avez dit à l'instant que vous insistiez sur la scansion, sur le côté oral, hein, de ces textes. J'ai envie de vous dire, quand on lit la Bible de Jérusalem, enfin les traductions habituelles des évangiles, on a plutôt affaire à de la prose. Là on a plutôt affaire à de la prosodie, de la poésie presque, c'est-à-dire que vous, donc, avec des paragraphes, presque des versets, avec une scansion. Donc, on a vraiment l'impression que vous avez voulu rendre d'abord à ces textes leur rythme originel, leur sève, et essayer de rendre l'impression qu'ils faisaient sur leurs auditeurs. Donc, est-ce que j'ai résumé un petit peu votre intention ?
Tout à fait. C'est-à-dire que quand je dis littéraire, c'est au sens, alors c'est pas au sens d'une belle langue ou d'une belle littérature entre guillemets, mais c'est au sens que ces textes ont un statut littéraire et ils mettent en œuvre des formes littéraires assez précises. Alors il y a tout cet aspect de l'oralité, mais aussi ce qui est important, c'est de faire entendre et de montrer dans le texte les différents genres qui sont en quelque sorte répertoriés et usés dans le texte évangélique. On connaît les paraboles, mais la parabole, c'était un genre entre guillemets littéraire précis dans ce monde assez ancien, d'ailleurs, qui appartient à l'Orient ancien, mais dans tout l'enseignement juif, hébraïque, justement des Écritures, la parabole était un outil littéraire extrêmement précis, c'est-à-dire des contes, des histoires, des fables très brèves qui parlaient de choses réalistes, concrètes que les gens pouvaient comprendre.
On est dans la culture agraire de la Palestine, voilà, du premier siècle, avec donc toutes les images, voilà, qui s'attachent au monde rural et donc à des expériences vécues.
C'était une forme de poésie populaire qui pouvait, voilà. Donc il y a ça, mais il y a aussi on a aussi tout le milieu littéraire, là aussi, de l'enseignement et de l'interprétation des Écritures, qui répondait à des choses précises. C'était un jeu, presque un jeu entre guillemets, mais c'est quand même un jeu rhétorique extrêmement profond, où effectivement il fallait, à partir de citations, d'extraits des Écritures, bâtir un discours, bâtir une réponse. Et surtout, c'était, alors pour employer un mot un peu savant, mais c'était toute une herméneutique, effectivement, de l'interprétation des textes adaptée à la vie des uns et des autres et aux questions qu'on se posait. Par exemple, lors de la discussion du Shabbat, est-ce qu'on peut agir quand même pendant le Shabbat ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire ? Et bien, cette discussion, c'est pas Jésus qui l'a inventée, ce sont pas les évangiles qui ont inventé ça, mais ça fait partie d'un trésor qui est le trésor de la discussion des Écritures par cette tradition hébraïque, juive, de la lecture biblique et de la lecture de la Torah, plus exactement. Et les évangiles, il faut insister, sont les premiers textes écrits qui nous restituent ce genre de forme littéraire. On le redécouvrait après avec le Talmud qui est en fait les textes écrits de toute cette tradition de commentaires, mais qui sera mis par écrit un peu plus tard, pas avant le 3e, 4e siècle. Voilà.
Alors vous avez voulu...
À travers
cette traduction, qui d'ailleurs est une traduction de la traduction, puisque ça, on en a parlé au début, hein, donc c'est ça qui a été difficile. Donc à travers cette traduction donc éminemment littéraire, vous avez voulu donc rendre la force poétique de ces textes, leur force agissante, au sens où la poésie agit sur nous. Vous avez voulu aussi dépoussiérer un petit peu les évangiles, peut-être de leurs habits de sacristie, hein, je peux m'exprimer ainsi. Et puis aussi analyser un peu les évangiles sous l'angle de l'effet qu'elles font sur leurs auditeurs. Hein. Donc il y a vraiment une tentative vraiment de rendre toute leur puissance à ces textes. Alors rendre leur puissance à ces textes, c'est aussi parler de la figure de Jésus lui-même, puisque c'est quand même le personnage central de ces textes. Donc ce jeune rabbin, on l'a dit, ce jeune rabbin du premier siècle. Alors vous insistez beaucoup dans votre préface, et ça je crois que les chrétiens et ceux qui connaissent l'Écriture le savent, mais c'est-à-dire que ce n'est pas un vagabond, ce n'est pas seulement la victime d'un procès inique. C'est d'abord quelqu'un qui est un fin connaisseur, un grand connaisseur de la tradition juive. On dit qu'à 12 ans, il est déjà dans un temple en train de commenter l'Écriture devant des gens plus âgés que lui et plus essentiellement plus savants. Donc c'est quelqu'un qui est tout de suite reconnu dès sa plus tendre enfance comme quelqu'un d'habité par la parole, qui la connaît, qui l'a analysée, qui l'a comprise. Et il passe son temps, lors des discussions innombrables qu'il a dans les évangiles avec ceux qui cherchent à le confondre, il passe son temps à avoir des discussions extrêmement serrées sur tous les aspects de la tous les problèmes que pose l'observance de la tradition. Donc c'est quand même un personnage, vous le dites à un moment, il est à la fois compatissant et redoutable. Parlez-nous un peu du Christ que vous avez en tête quand vous lisez les évangiles.
Ce qui m'a intéressé, c'est quand on lit les évangiles, justement, un peu pas débarrassé, mais qu'on oublie un peu tout ce qu'on sait ou tout ce qu'on nous a raconté, comment ces textes nous le présentent. Ils nous présentent d'abord comme quelqu'un, ce que vous dites d'abord, ils le désignent tous les quatre comme rabbi. Donc c'est pas n'importe quoi, un rabbi, c'était un maître de sagesse dans les milieux juifs, hébraïques, dans les milieux d'Israël, dont la fonction était de lire la Torah et d'interpréter la Torah et de répondre et de discuter de l'interprétation de la Torah, même de la moindre parole de la Torah, de la moindre lettre de la Torah en quelque sorte, de discuter de son interprétation et de son application en quelque sorte dans la vie de tous les jours et dans les questions qu'on pouvait se poser dans les communautés. Voilà. C'est exactement ce que racontent les évangiles. Alors, ils ne racontent pas que ça, mais Jésus est présenté. Alors évidemment, donc ça fait oublier un peu le personnage romantico exalté là, effectivement, de vagabond dans les chemins de Galilée et de Judée. Et
puis, ouais, le discours sur la montagne.
Voilà. Et en fait, les évangiles nous le présentent. Il n'arrête pas il est invité dans toutes les synagogues de Judée et de Galilée. Il est même invité au temple, ce qui n'est pas rien, pour commenter. Et en fait, on le reçoit pour qu'il explique son point de vue. Il est invité comme rabbi. Il est invité par les plus hautes autorités du temple. Par le grand prêtre, par les grands chefs des pharisiens. Donc, les évangiles nous le représentent. C'est une simple lecture littéraire, là, pour le coup. C'est comme quand vous lisez un texte, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Il se passe que les évangiles sont rythmés par ces discussions, par cet enseignement d'un Jésus, et vous l'avez dit, effectivement, qui est présenté, du coup, par ces textes, comme Moi, ça m'a fait penser à la littérature hassidique du 19e siècle, hein, qui en fait est rythmée par des portraits de grands rabbins dans les petites communautés de tous les pays de l'Est. Et on raconte on raconte la sagesse de ce rabbin, les histoires, les légendes autour de ce rabbin. Ben c'est ça, les évangiles aussi. Donc on dit d'abord sa naissance devient légendaire chez Matthieu et Luc. Comme vous le dites, on dit tout petit déjà, il savait tout et il enseignait dans le temple au plus grand rabbin. Bon, et ensuite son enseignement devient une forme effectivement de sagesse qui va s'imposer au point d'ailleurs effectivement donc de créer de la jalousie, de créer une interrogation, une discussion qui est pour moi le reflet des discussions qu'il devait y avoir parmi les milieux juifs à l'époque, hein. C'est-à-dire que Jésus n'était sûrement pas le seul rabbin, et il faut essayer d'oublier d'abord le destin tragique de ce jeune rabbin, mais il faut dire que ce qu'on entend quand on lit tous ces textes, on entend le climat de discussion, peut-être de conflit, effectivement. En tout cas, il y avait une intense vie, si vous voulez, interprétative, mais qui était quelque chose de pas seulement intellectuel ni spirituel, mais vital, finalement, pour savoir comment on pouvait encore vivre avec la Torah dans le monde dans lequel on vivait, qui était un monde de plus en plus difficile, violent et incertain. Voilà. Et ce jeune rabbi vient et apparaît comme un maître de sagesse et tout le monde veut l'écouter. Alors après, on raconte, il y a une espèce d'exagération, effectivement, une emphase où tout d'un coup, non seulement il est dans les synagogues, mais il est aussi sur les rivages, sur les montagnes, dans les villes, tout le monde l'accompagne, etc. Bon, mais donc ça en fait une sorte de... Il y a une héroïsation de ce jeune rabbin dans les évangiles. Et effectivement, il n'est pas du tout sous... On a dit parfois que c'était un juif marginal, pour d'autres raisons aussi. Mais dans les évangiles, rien ne permet de dire qu'il était marginal, franchement. Il était au contraire, c'est... Bon.
Vous le présentez donc comme un jeune rabbin, donc un jeune rabbin, mais parmi d'autres, c'est un rabbin guérisseur aussi. Il y a d'innombrables scènes dans les évangiles où il guérit des personnes possédées, des personnes malades, des grabataires. Bon, mais à l'époque, ce n'était pas si rare. Il y avait d'autres guérisseurs qui circulaient dans la Galilée. Donc, il se distinguait pas forcément sous cet angle-là. Est-ce qu'il le distingue et qui a fait qu'il a eu une fortune que d'autres n'ont pas eue, une fortune fabuleuse, il faut le dire, n'est-ce pas parce que, capable de parler au temple de Jérusalem, il est aussi capable, et là il faut lire cette fabuleuse scène du puits de Jacob où il rencontre la Samaritaine, et là, cette capacité qu'il a à parler à tous, c'est-à-dire à parler à la fois aux plus grands savants, et puis parler à la femme adultère, à la femme qui lui offre de l'eau au puits, et donc il a cette espèce de dimension universelle d'un homme capable, voilà, qui à travers cette universalité du langage porté à tous, évidemment reflète peut-être quelque chose de l'attente messianique du peuple juif.
Oh, bien sûr, c'est-à-dire que vous les avez dites, c'est bien. Il y a deux choses qui vont effectivement distinguer en quelque sorte ce rabbin, en tout cas qui ont fait qu'il a été distingué. C'est ce que vous avez employé le mot universel. Alors je pense qu'à l'époque, on ne parlait pas comme ça, mais effectivement, il va loin quand il s'adresse aux uns et aux autres. Voilà, il est. On peut dire quand même que ce qui va le distinguer, c'est qu'il va passer des frontières comme ça, passer des barrières, et c'est justement intéressant que ce soit écrit en grec dans une langue de traduction, une langue de diaspora, c'est-à-dire ses paroles, son enseignement vont s'adresser de plus en plus à tous, et lui-même, effectivement, dans les évangiles, montre qu'il n'y a pas de mal à s'adresser à une Samaritaine qui était considérée comme une étrangère et une ennemie. Il n'y a pas de mal à s'adresser à des classes sociales qui sont dévalorisées et qui étaient infamantes, tant pour les milieux religieux juifs que pour les milieux romains, par exemple. On ne parlait pas aux femmes comme on parlait aux hommes. Les enfants n'étaient pas considérés comme des personnes libres au sens. Alors, on ne parle pas des prostituées ou des soldats aussi, ou des mendiants ou des malades. Les malades étaient répudiés.
Les lépreux.
Ce monde évangélique. Et les lépreux, par exemple, et ce monde évangélique, ce peuple de tous ces catégories sociales et religieuses qui sont soit bannies, soit répudiées. Et alors ça, c'est une différence, effectivement. En tout cas, c'est quelque chose qu'il porte très haut et qui a été retenu de façon massive. Et donc, il va engager quelque chose où la parole de la Torah va se confronter à une réception beaucoup plus universelle, effectivement. Et l'autre chose, c'est la question messianique, alors qui est très étrange, qui est très belle d'ailleurs dans les évangiles, et qui est très étrange parce que lui-même essaye d'esquiver à chaque fois la question, la célèbre question « Qui es-tu ?» Jésus répond « Et toi, que dis-tu que je suis ?» Voilà. Bon, lui-même semble ne jamais vouloir répondre, et même devant le grand prêtre et devant Pilate, au moment de son procès, il esquivera, en tout cas, il répondra.
C'est toi qui l'as dit.
Ironique, voilà. Donc, la question messianique va être effectivement quelque chose qui va faire que ce personnage aura le destin qu'on a connu, en tout cas dans les siècles qui vont suivre. Mais la question messianique était une question brûlante dans tous les textes du Talmud qui parlent du messianisme. On peut entendre ce qui se passe dans les évangiles aussi, c'est-à-dire que oui, le Messie viendra. Oui, le Messie. Peut-être même que le Messie est là, mais on ne le reconnaît pas. Et c'est ça qui est très beau dans les textes évangéliques, c'est que on va insister sur le fait que, en quelque sorte, c'est paradoxal. Il est reconnu Messie parce que personne ne l'a reconnu. Enfin voilà, il est Messie parce que personne ne l'attendait. Voilà, celui qui vient est celui qui n'était pas attendu. Les évangiles, d'un point de vue dramatique, mettent ça en scène.
C'est une question très 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 subtile d'une certaine façon, puisque vous avez parlé vous-même du climat d'attente messianique qui est celle de l'époque du Christ, mais qui dure depuis déjà longtemps. On peut prendre par exemple les textes d'Isaïe que d'ailleurs le Christ connaît par cœur, et les évangiles d'une certaine façon réitèrent des textes beaucoup plus anciens, les textes d'Isaïe qui sont déjà des textes dans lesquels on peut on peut percevoir l'aventure même de cet homme fait Dieu. Donc on est là dans une tradition très très forte. Mais le Christ donc c'est celui qu'on attendait et celui qu'on n'attendait pas. C'est un peu ça le paradoxe. Et là vous citez Pascal, vous citez notre grand Pascal national qui dans un des textes donc du XVIIe siècle explique qu'au fond ce qui fait la particularité de ce Messie là, c'est que il était attendu, mais il n'est pas venu avec l'éclat attendu.
Voilà. Et alors ça, c'est quel...
l'éclat attendu. Alors là, vous parlez de ça parce que ça vous frappe beaucoup. Vous dites que Pascal a tout compris. Pourquoi est-ce que Pascal a tout compris?
Non, mais parce qu'il a résumé comme ça dans ses phrases. Il n'est pas venu dans l'éclat attendu, et c'est ce qui fait tout le drame de la passion et tout le drame de ce que sera le christianisme. Et je crois que c'est une voilà, et que effectivement, je pense que c'était un lecteur extrêmement vif de ces textes-là. Et
vous dites que c'est fulgurant même. Hein.
Oui, parce que tout est là, voilà. Il n'est pas venu dans l'éclat attendu. Vous avez raison, c'était déjà, on pouvait le lire déjà dans ce qu'on appelle le deuxième Isaïe, dans les textes du prophète Isaïe, où effectivement, Isaïe met en scène à un moment donné, le texte d'Isaïe met en scène à un moment donné un Messie souffrant, et le texte d'Isaïe déclare qu'effectivement, vous ne pouvez pas reconnaître le Messie, puisque finalement, il viendra comme un malade, il viendra porter vos propres maux, vos propres péchés, vos propres souffrances. Ce sera un petit arbre rabougri, tout sec, vous ne le reconnaîtrez pas. Voilà. Et alors,
c'est déjà le récit de la naissance du Christ, hein, bien sûr. Hein.
Voilà. Ce n'est pas toute la tradition messianique, justement, et c'est bien le problème. C'est-à-dire c'est une des pistes, en quelque sorte, messianiques. Voilà. Et c'est cette piste-là que les évangiles vont mettre en scène dans une sorte de dramaturgie extrêmement puissante avec ce personnage qu'est Jésus, effectivement.
Oui, pardon.
Non, il y a plein de textes dans les évangiles qui mettent en scène ce fait si c'est lui, il n'est pas reconnu, effectivement. Hein, donc, et que ceux qui le reconnaissent, d'abord, paradoxalement, ceux qui le reconnaissent sont d'abord les démons, les premiers à dire on sait qui tu es, et Jésus les chasse, et l'évangéliste dit il les chasse parce que Jésus
dites que les démons sont rageurs et impuissants.
Voilà, ils sont rageurs et impuissants face à lui, mais finalement, et c'est très fort même d'un point de vue dramaturgique, hein, c'est le mal d'abord qui reconnaît Jésus comme Messie. Voilà.
Et puis, c'est le mal. Et puis aussi, ce sont aussi les bergers de la nativité. Puis c'est aussi la femme au puits de Jacob. Donc des petites gens hein, qui eux vont comprendre de quoi il s'agit. Alors dans votre traduction, évidemment, il est question du Messie. Mais alors, si j'ai bien vu, c'est toujours le Christ Messie, Christ-Messie, avec des minuscules. Alors je suppose que c'est évidemment volontaire de votre part de mettre des minuscules à ce qui est quand même une qualification très 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 importante, très fondamentale. Le Messie, c'est un Messie avec une minuscule, et le Christ aussi. Alors faut peut-être rappeler ce que ça veut dire, Christ Messie.
C'est intéressant. Alors d'abord, pourquoi j'ai fait Christ Messie? C'est un aspect de ce que j'ai proposé dans la traduction. Il y a certains termes, vous voulez, dont je pense que, alors, à propos des filtres dont vous parliez au début de la conversation, on a eu tellement de filtres sur ces termes qu'on ne sait plus ce que ça veut dire. Alors le grec Christos, qui a donné Christ en français, traduit Meshia en hébreu. Alors Meshia, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui est oint, c'est-à-dire c'est la figure royale qui reçoit l'onction pour être roi, etc. Et c'est ce qui va donner effectivement la désignation messianique. Hein, le Messie sera celui qui sera oint comme les plus grands rois d'Israël, etc. Bon, et Christos, en grec d'ailleurs, est un mot qui signifie la même chose. C'est oint, même ça peut vouloir dire, en langue profane grecque, ça peut vouloir dire le maquillage. Par exemple, les acteurs, quand ils se maquillaient, le grec emploie le même mot. Donc voilà, bon, mais on a ce mot. Alors, comment traduire? D'abord, les évangiles, de temps en temps, disent en grec Christos, citent le mot hébreu Meshia et disent qui signifie Christos. Donc, moi, j'ai voulu pour ces mots faire une double traduction pour faire entendre les choses. Donc, lorsque je tombais en grec sur le mot Christos, je traduisais Christ, Messie. Voilà. Pour faire comprendre. Si je traduis que Christ, je pense que ça dit plus grand chose, et que la plupart des lecteurs comprennent immédiatement cette image du Christ, le personnage, comment dire, de la chrétienté. Voilà. Mais finalement, on n'en est pas là avec les évangiles, en tout cas avec les textes. Donc il fallait comprendre, il fallait faire entendre. Si je traduis que Messie, je trouvais que c'était dommage parce qu'on oubliait effectivement ce mot Christ qui va devenir si important. Donc j'ai traduit les deux. Par exemple, diabolos, j'ai fait la même chose, c'est diable, mais qui sait ce que ça veut dire diable ? En fait, et le mot diable même peut prêter à beaucoup de confusion. Jésus, là, ne rencontre pas le diable au sens où on nous parlait du diable au catéchisme. Jésus rencontre une figure très importante de toute la tradition hébraïque et même du Moyen-Orient et de l'Orient ancien, rencontre l'opposant qui va semer la division, qui est là, c'est presque une figure juridique, quelqu'un qui vient pour vous éprouver, pour dire non mais voilà, moi je vais vous faire passer.
On dit d'ailleurs je me fais l'avocat du diable en français, on a cette expression.
Non, mais exactement. Oui.
Et alors d'ailleurs il y a des mots pour dire le diable, on l'appelle souvent l'adversaire.
L'adversaire, c'est Satanas,
on l'appelle le diviseur aussi, le diviseur, hein, celui qui voilà.
Le diable, c'est le diviseur parce que ça vient d'un mot grec, diabolos, qui signifie division, effectivement. Satanas, c'est un mot ancien de l'Orient ancien et qui signifie s'opposer, donc c'est l'adversaire. Et c'est d'ailleurs, et le Satanas, c'était l'ange devant la cour céleste qui était en gros, c'était le procureur général hein, et qui venait. Voilà, vous étiez convoqué devant la cour céleste. Il y avait des anges, il y avait un ange qui était chargé de dire tout le mal qu'on pouvait penser de vous. Voilà, donc donc c'est pour ça que j'ai dit voilà. Donc je traduis Satan, l'adversaire, le diable, le diviseur. Voilà, pour que les gens entendent à la lecture aussi quelque chose. Et qu'on sorte un peu des représentations convenues ou un peu figées des choses qui rendent au texte.
Il y a une autre qualification. Il y a une autre qualification du diable que j'aime beaucoup. On l'appelle le prince de ce monde. Et donc le prince.
Non, mais ça dit bien ce qu'on est en train de dire et aussi. Qui dit prince de ce monde dit que
Jésus évidemment lui est un peu un homme en procès qui vient révéler l'existence de cette royauté du mal dans le monde et qui vient la dénoncer. Qui vient la révéler, donc il y a là quelque chose d'extrêmement fort en fait, hein. et en même temps d'extrêmement cohérent avec le personnage du Christ qui est à la fois quelqu'un de très faible et de très fort, hein, qui est à la fois d'ailleurs l'évangile de Marc qui a été écrit pour les Romains, c'était pas très simple évidemment de s'adresser aux Romains à l'époque en leur présentant l'histoire d'un petit rabbin qui a été crucifié et d'expliquer aux Romains qu'il était beaucoup plus fort que l'empereur, quoi, que l'empereur lui-même et ses légions. Donc c'est quand même ce mélange d'extrême puissance et d'extrême faiblesse que vous essayez aussi de montrer dans votre traduction.
Oui, tout à fait. Avec, alors après, puisqu'on en est là, la grande question de ces textes, parce que c'est ce qu'on va appeler la passion, c'est-à-dire le procès. Donc effectivement, il va être condamné, il va être des choses assez complexes, hein, qui se jouent là. Et puis sa mort, sa mise à mort et l'après-mort. Voilà. Et ça, les quatre textes en parlent. On peut dire que les quatre textes, les quatre évangiles se rassemblent en quelque sorte autour de ce moment terrible de la condamnation, la mise à mort et de l'après-mort. Voilà. Quelque chose va se passer après la mort de ce rabbi et c'est aussi ça qui va déclencher quelque chose de singulier. Voilà, puisque le message ne sera plus simplement l'enseignement, mais le message sera de dire ben voilà, cet enseignement a conduit à ça et voilà, et quelque chose se poursuit après la mort. Voilà.
D'ailleurs, alors vous avez parlé des évangiles et de leur confluence un peu. Donc on rappelle quand même qu'il y a trois évangiles qu'on appelle les synoptiques, c'est-à-dire que quand vous les, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, quand vous les mettez côte à côte ou l'un par-dessus l'autre, vous vous apercevez qu'ils racontent grosso modo la même histoire avec des variantes. Donc ils ont grosso modo les mêmes sources. Alors que l'évangile de Jean, lui, est un petit peu à part. Il est un évangile plus tardif et puis je dirais plus philosophique, plus théologique d'une certaine façon, hein, avec aussi des histoires que l'on retrouve, mais globalement l'évangile de Jean est un évangile d'une nature légèrement différente, mais qui retrouve les autres au moment fatal de la passion, de ce long récit de la passion, donc du jugement et de la condamnation et de la crucifixion, et puis ensuite de ce qui se passe après. Et alors ce que vous dites et qui est donc on remarque pas toujours, c'est que là ce qui est fondamental pour le christianisme, c'est-à-dire la résurrection du Christ, c'est-à-dire il y a tout l'avant, mais évidemment il y a ce moment qui est le moment de la résurrection, de la vie qui revient, et là ce n'est pas raconté, c'est-à-dire qu'aucun des évangiles ne raconte la résurrection, il raconte ce qui se passe avant, il raconte ce qui se passe après, et puis il y a cette espèce de trou noir, j'ai envie de dire, qui est ouvert à l'imagination, qui est ouvert à l'interprétation. Alors, comment vous vous êtes débrouillé avec ça, et est-ce que vous avez essayé de comparer précisément la façon dont les quatre textes s'arrangent de ce moment où il y a une rupture, finalement, une rupture et un manque de, une sorte de solution de continuité dans le texte.
C'est une grande question parce que effectivement, rien n'aurait interdit que on se mette dans cette tradition évangélique à raconter la résurrection elle-même. Ça a été fait d'ailleurs. D'abord, dans toute la tradition antique, on raconte des descentes au pays des morts, on raconte Énée qui descend et qui ressort, Orphée et puis beaucoup d'autres. Et dans les évangiles apocryphes, on a des récits de la résurrection elle-même, le Christ qui sort du tombeau et on le décrit, etc. Donc, mais là, cette tradition-là, de ces quatre textes, effectivement, qui ont été réunis, il n'y a pas de, on ne raconte pas parce que c'est l'irracontable, précisément, de ce qui s'est passé, effectivement, à ce moment de la mort et après la mort. Voilà. On raconte une chose simplement, c'est le tombeau vide. Donc, on raconte le vide, on raconte l'absence, on ne raconte pas la mort. On ne raconte pas la résurrection.
On passe directement du tombeau de Joseph d'Arimathie qui dépose le corps du Christ au tombeau dans ses bandelettes, et puis au moment où un ange resplendissant donc se trouve devant une pierre roulée et accueille les femmes affolées qui viennent voir le Christ.
Alors, moi, en traduisant ces textes, c'est-à-dire ce qu'on appelle devant le tombeau vide, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que le langage qui était employé, les mots qui étaient employés, relevaient de la transe chamanique. C'est-à-dire, il y a le mot extase en grec, extasis, qui est le même que nous. Et on décrit la terre qui tremble, on décrit des sources lumineuses très, très violentes, et on décrit surtout des personnages qui tombent, qui sont frappés de sommeil, qui sont frappés. Les soldats s'endorment, des apparitions lumineuses arrivent, et on est dans le vocabulaire de la transe sacrée, de la transe religieuse, et ce sont donc les femmes au tombeau qui sont frappées de stupeur. C'est très très, le vocabulaire grec est très fort à ce moment-là. Hein. Donc ça parle de stupeur, d'extase, de.
On vous dit à moi, elles sont stupéfaites de frayeur, frayeur.
Elles sont à la fois ce qui est le propre effectivement de la transe, c'est-à-dire vous êtes à la fois effrayé et stupéfait et ravi dans une espèce de ravissement, et vous avez des visions, et ces visions vous font communiquer avec la mort. Hein. C'est le propre de la transe, c'est le passé. Voilà. Et donc, il y a ce qui est décrit, en quelque sorte, c'est une transe qui vous fait passer de la mort à la vie, en quelque sorte, pour aller vite. Et ça, les quatre évangiles le font, ce qui est assez beau. Et à chaque fois, ce sont des femmes, d'ailleurs, aussi, ça a un sens. Hein. C'est elles qui reçoivent d'abord ce message-là et qui le portent comme dans cet état de transe forte. Et ce qui explique, d'ailleurs, qu'au début, personne ne les croit, les compagnons de Jésus, quand elles viennent les voir, leur première réaction est de ne pas les croire. Et ensuite, effectivement, tout va tenir sur simplement la parole de l'après. Et j'ajoute, et je termine là-dessus, c'est que les quatre textes racontent aussi la même chose, c'est que ce qui est dit à ces femmes et à ces hommes qui viennent constater le vide du tombeau, le message de ce récit, c'est de leur dire ne restez pas devant la mort ou devant l'absence, mais retournez à la vie. Les disciples d'Emmaüs, on leur dit retournez à Jérusalem, pourquoi vous fuyez? Retournez d'où vous venez, parce que c'est là que ça se passe. Dans Marc, c'est ne restez pas là, allez parler aux autres. Et donc, c'est ce mouvement, effectivement, qui est important. Et c'est ce qui fait que ces récits sont aussi s'inscrivent dans la grande tradition littéraire des récits de deuil. C'est-à-dire comment on sort du deuil, c'est ce que racontent ces textes. Simplement, si on ne veut pas avoir une lecture forcément spirituelle ou religieuse, théologique ou canonique, si vous lisez ces textes comme ce qu'ils sont aussi, c'est-à-dire des textes de littérature, ce sont des grands textes sur l'expérience du deuil, voilà, ou comment on fait pour dire l'absence, comment on fait pour dire ce qui s'est passé, c'est-à-dire comment on fait pour dire ce qui n'est l'indicible à la fois de la souffrance et de la disparition, et qu'est-ce que la parole peut faire après, voilà. Eh bien, ces textes-là parlent de ça, voilà, avec une force, une simplicité qui est, sont extrêmement belles. Hein, et...
J'ai cité au début la longue préface que vous donnez, et cette longue préface où vous expliquez votre geste traducteur, votre travail, donc se termine effectivement par deux très belles pages sur le deuil. Alors on sait que bon, évidemment, ça peut être pour chacun d'entre nous, évidemment, ça peut être très important de trouver face au deuil vraiment une explication et une voie pour en sortir. C'est votre cas, mais c'est le cas de tant d'autres qui se retrouvent devant une voilà l'absence d'un être cher et donc obligé donc de finalement de ressentir, de réfléchir, de passer le cap. Et alors, précisément, les évangiles nous offrent vraiment un chemin. Le mot résurrection d'ailleurs n'est pas dans le grec. Enfin, vous ne le traduisez pas ainsi, vous traduisez plutôt se relever. C'est se remettre debout, se relever, hein, se relever. Alors ça s'applique à celui qui est mort et qui se relève, et puis ça s'applique peut-être aussi à celui qui écoute, qui est frappé et qui se relève. Elles sont très belles, ces pages, les pages de la fin de votre préface, elles sont vraiment très belles. On sent vraiment que là, il y a dans les évangiles une source vive, une eau vive, comme disait le Christ, mais une eau vive, une eau vive pour nous aider finalement à nous aider non seulement à vivre, mais à revivre. Hein.
Alors, tout à fait. Il y aurait beaucoup de choses à dire, parce que ça touche aussi la question messianique, c'est-à-dire comment on peut expliquer qu'un Messie soit mort? C'était une énigme, c'était un paradoxe. Évidemment. Si le Messie vient, on nous raconte après qu'il meurt, donc ça va pas. C'est aussi cette souffrance-là qui est aussi un deuil. Alors je vais dire un deuil presque théologique, quoi, de dire est-ce qu'il faut faire le deuil du Messie puisque le Messie a été crucifié. Donc c'est une question très profonde qui probablement agitait ces communautés qui ont cru en cet homme et en sa parole, et tout d'un coup assistent à la mort de cet homme. Donc comment faire? Comment expliquer ça? Donc c'est une parole à la fois très humaine, très puissante, et en même temps, c'est un abîme théologique, en quelque sorte, puisque le Messie arrive et il disparaît. Donc on nous dit il reviendra, bon, d'accord. Mais on sait que progressivement, on va comprendre qu'il ne reviendra pas de sitôt, et donc, la parole qui se construit là-dessus est une parole très émouvante, très forte, très puissante, très énigmatique quand même, hein, puisque, effectivement, elle va... En fait, l'idée est que, effectivement, en racontant que l'autre s'est relevé de la mort, il faut entendre, c'est exactement ce que vous disiez, que ceux qui racontent ça se relèvent eux-mêmes de la souffrance et se relèvent eux-mêmes de la question impossible à traiter. Où est l'autre? Où est passé l'autre? Où il est? Voilà. Donc c'est moi je trouve que vraiment on n'a pas souvent insisté là-dessus, parce que d'abord la réception de ces textes a été très religieuse et spirituelle, ce qui est normal, hein. Donc on insistait sur la lecture de la résurrection, effectivement. Mais si vous prenez un temps, si vous oubliez un temps cela, vous êtes en face, effectivement, de deux textes qui inventent quelque chose sur ces questions-là, qui sont des questions qui, à l'époque, devaient bouleverser ces communautés qui ont cru en ce jeune rabbin et en sa parole d'espérance, et aussi qui traversent l'expérience de chacun dans la vie quand quelqu'un d'aimé, de cher, disparaît. Voilà.
Vous traduisez d'ailleurs, bien sûr, c'est dans le texte, avec une certaine intensité, jubilation peut-être aussi, ce très beau texte de ce qu'on appelle les pèlerins d'Emmaüs, qui sont ces deux hommes qui cheminent sur la route après la mort du Christ et qui sont de ses compagnons, et puis qui vont rencontrer un homme qui va cheminer auprès d'eux et qui va leur parler des Écritures. Et qu'ils ne vont pas reconnaître, ou en tout cas pas reconnaître tout de suite, mais qu'ils reconnaîtront lorsqu'il partagera le pain. Bon, on a vraiment une situation humaine extrêmement extrêmement forte, dans laquelle au fond nos yeux se dessinent, nos yeux s'ouvrent parce qu'une présence très puissante s'est approchée de nous et nous révèle une autre dimension de notre vie. Alors on peut appeler ça l'éternité, on peut appeler ça l'au-delà, on peut appeler ça comme on veut, mais finalement le Christ est là, il est présent, et ces deux hommes finalement sont bouleversés. Donc c'est un texte très important.
Oui, c'est un texte très important, c'est un très beau texte. Donc effectivement, c'est une façon de raconter l'après, effectivement. Donc on va raconter ces deux disciples qui fuient Jérusalem. Ils fuient Jérusalem pourquoi ? Parce qu'on peut imaginer qu'après la crucifixion du Christ, ses disciples étaient pourchassés aussi. Et puis la souffrance et la douleur font qu'on a envie de partir, qu'on a envie de quitter ça. Et sur le chemin, il se passe cette chose, cette rencontre avec un inconnu. Et cet inconnu se fait reconnaître à eux, en quelque sorte, avec deux choses. D'abord, il lit les Écritures. Et en lisant les Écritures, ils vont comprendre qu'effectivement...
ils ne sont pas avec n'importe qui. Ils sont oui.
Et ils partagent le pain, effectivement. Et c'est les deux actions, en quelque sorte, qui vont devenir les deux grands actes liturgiques, même. Le partage du pain, l'Eucharistie, mais aussi la lecture. Et en fait, c'est aussi dire que c'est dans l'interprétation, en quelque sorte, dans la lecture et dans l'intelligence à la fois des Écritures et de la vie et du partage que cette absence est dépassée et que cette absence devient une présence en quelque sorte. Voilà, c'est ce s'il y a un mystère de la résurrection sans trop vouloir faire de ça se passe à ce niveau-là. Quoi. Voilà, ça se passe à ce niveau-là. C'est comment faire de l'absence une force de présence. Voilà, c'est ce que racontent les évangiles à la fin.
Alors, j'ai encore deux questions à vous poser. On s'achemine un peu vers la fin, mais quand même, c'est très riche, c'est extrêmement riche. On pourrait en parler longtemps. Donc, il y a toutes sortes de questions qui se posent, évidemment, à la lecture des évangiles. Vous avez, la nature même du Messie, donc vous avez un peu répondu. Il y a aussi, qu'est-ce que ça signifie être sauvé ? Qui est le sauveur et que signifie être sauvé ? Et puis aussi, peut-être une question qui m'a beaucoup intéressé, c'est-à-dire la foi, c'est un mot qui peut parfois faire peur. Vous avez la foi, vous n'avez pas la foi. Vous revenez au mot de confiance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance ? Comment est-ce qu'on peut faire confiance ? Et au fond, les évangiles, vous les trouvez très intéressants parce qu'au fond, ce sont des textes qui nous aident à faire confiance parce qu'ils sont capables de nous révéler que la confiance, elle est déjà en nous. C'est-à-dire qu'il y a déjà en nous une force qui est une force qui nous rend capable de faire confiance et qui est une force de vie. Et c'est plus important on donne sa confiance au fond parce que cette confiance on l'a déjà en soi et c'est quelqu'un qui nous la révèle. Au fond, c'est un changement de perspective très intéressant, non ?
Oui, franchement, effectivement, quand on lit ces textes où régulièrement quelqu'un vient et est sauvé et guéri par Jésus, il y a cette chose très étrange, c'est qu'à chaque fois, ce Jésus, ce jeune rabbin répond, mais finalement, c'est pas moi qui t'ai sauvé, c'est la confiance, littéralement le grec, c'est la confiance qui est en toi, t'a sauvé, t'a libéré.
Alors c'est souvent traduit, ta foi t'a sauvé, mais en fait...
Alors, c'est pas faux, bien sûr, de traduire ta foi t'a sauvé, mais moi, j'ai voulu dire, voilà, alors moi je traduis en disant la confiance qui vient de toi t'a sauvé. Pourquoi ? Pour insister, alors c'est un peu littéral, même un peu lourd, on peut dire, mais c'est pour insister sur une chose, c'est que la foi, c'est pas un objet qu'on n'a pas, voilà. À laquelle on n'adhère pas, c'est pas un programme de je sais pas quoi. Dans ces textes-là, c'est quelque chose de très puissant, de très humain, même de très physique. Hein. Le guérisseur, en quelque sorte, dit, mais moi, j'ai rien fait. En fait, moi, j'ai appelé ce qu'il y avait en toi. Voilà, j'ai appelé ce qu'il y avait en toi. Donc, c'est un peu une révélation de soi, quoi. C'est quelque chose de dire, mais tu as cette force-là aussi, donc utilise là et cette force là donc je trouve que c'est ça rend quelque chose de plus impressionnant et de plus juste même que simplement traduire par ta foi t'a sauvé. Après le mot foi, le mot confiance, bon, ce sont les mêmes mots, hein. Foi, c'est un mot issu du latin fides, bon, voilà, qui traduit lui-même un mot grec, mais le mot grec pistis, c'est un mot qui signifiait très fort et qui signifie effectivement faire confiance, adhérer à voilà, donc c'est quelque chose de
donc au fond, foi, quand on, bah, est un peu au fond quand on parle des, il faudrait mieux plutôt que parler des croyants, il faut mieux parler des confiants.
On pourrait, mais il y a des religions qui parlent de confiants, effectivement. Oui, on pourrait, mais c'est-à-dire que l'idée n'est pas tant, effectivement, de croire en quelque chose. D'ailleurs, les évangiles ne parlent jamais comme ça. Jésus ne demande jamais est-ce que tu... D'abord, par exemple, Jésus ne dit pas est-ce que tu crois que je suis le Messie ? Jamais. Voilà, donc c'est les autres qui essayent. Finalement, c'est les autres qui voudraient bien ça. Ils voudraient bien dire, mais voilà, c'est le Messie, j'y crois, c'est bien, c'est fini. En fait, Jésus les détourne de ce discours-là. Voilà. Donc c'est intéressant. Donc, effectivement, l'idée est d'aller chercher la confiance de l'autre. Alors, ce qui est très beau, effectivement, ce que je trouve, ça, c'est une figure... narrative, mais qui est très très belle. C'est-à-dire que parfois on a tout pour être sauvé. En fait, finalement, on a tout pour être sauvé. Mais il faut, on a besoin que quelqu'un nous dise simplement « mais si, tu es sauvé ». C'est-à-dire, c'est pas lui qui nous sauve. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait l'assentiment d'un autre, en quelque sorte, ou la rencontre avec un autre. C'est très beau, parce que ça veut dire que le salut ne peut... Le salut ne peut exister que par l'altérité. Voilà. Il faut que quelqu'un, peut-être, vous révèle à vous-même la parole de votre salut. Quoi. Voilà.
Est-ce que c'est pas pour terminer cette conversation que j'aimerais prolonger, mais on nous sommes tenus quand même par le temps. Mais est-ce que c'est pas là qu'il faut cela qu'il faut dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire que la lecture des Évangiles c'est une lecture de ce point de vue extraordinaire parce que précisément elles ont ce pouvoir non pas de nous faire croire à des histoires. Mais de nous, même si ces histoires sont magnifiques et nous emmènent vers un horizon d'espérance, mais que plus, de façon presque plus prosaïque, elle nous renvoie un miroir qui nous permet de croire en nous d'une certaine façon et de croire que nous avons en nous-mêmes toute cette puissance de vie, cette puissance de se relever non pas encore d'entre les morts, mais de se relever déjà dans la vie qui est la nôtre. Et est-ce que c'est pas là la chose qu'il faut dire à tous ceux qui seraient tentés d'acheter votre livre et puis de se replonger dans les Évangiles, qu'il y a là plus qu'un trésor de sagesse, qui serait un petit peu réducteur d'une certaine façon, c'est peut-être plus que ça. C'est-à-dire que les Évangiles, c'est peut-être plus qu'un livre de sagesse, justement. C'est-à-dire c'est un livre qui vous relève.
En ce sens, oui, parce que même, et on vient au début de la conversation, ce sont des livres qui ont été écrits pour effectivement avec l'idée d'une force performative, c'est-à-dire que et l'idée c'est si vous lisez les Évangiles, quelque chose doit se passer et qui touche à cette question. Ce jeune rabbin n'impose rien jamais. Ce jeune rabbin interroge toujours l'autre. Et donc je pense que lire ça aujourd'hui, on a tout d'un coup le témoignage d'une force humaine et d'une lucidité sur l'humanité qui est extrêmement belle. Alors après, on en fait un dieu, on n'en fait pas un dieu, ça, mais ce sont d'autres questions qui sont importantes. Mais la découvrir ces textes aujourd'hui, c'est une sorte de littérature presque efficace et qui vise à casser un peu les moules dans lesquels on vit, les moules avec lesquels on parle, les moules avec lesquels on pense croire, ne pas croire, avoir confiance, ne pas confiance. Et tout ça, effectivement, avec un imaginaire narratif extrêmement, extrêmement vivant, poétique. Et avec des réponses toujours fulgurantes. Vous parliez de la femme adultère, c'est un récit que tout le monde connaît ou croit connaître. Mais effectivement, ce qui se joue là, c'est une pointe extraordinaire, d'abord herméneutique, c'est-à-dire où la Torah dit que si une femme est adultère, il faut la lapider. Bon. Alors, le jeune rabbi ne s'y oppose pas du tout. Il dit, effectivement, c'est la Torah, donc voyons voir. Donc. Et il convoque tout le monde et il dit, qu'est-ce que vous faites? Et il a tout d'un coup la parole. C'est pour ça, c'est cette force des Évangiles. Il a tout d'un coup une parole, une seule, qui va tout renverser. Qui va dire que celui qui n'a jamais fauté, qui n'a jamais commis d'erreur ou de...
Vous ne parlez pas de péché, vous ne traduisez pas par péché d'ailleurs. Hein, qui est...
Non,
ça nous relance pour une heure. Mais...
Que quelqu'un qui n'a pas fait d'erreur, de faux pas ou de... jette la première pierre. Voilà, ça, et tout d'un coup...
Le texte est extraordinaire parce que le texte dit ils commencèrent à partir en commençant par les plus vieux. Les plus vieux commencent à partir.
La force du récit. C'est une image. C'est la force imagée du récit.
Ce qu'il dit à la femme est essentiel. C'est-à-dire, je ne suis pas venu pour te condamner. Hein. Va et ne faute plus.
C'est-à-dire que lui aussi reconnaît ce jeune rabbi. Il dit moi non plus. Je ne t'ai pas connu, c'est-à-dire que en se mettant du côté des pêcheurs, finalement, moi non plus, je t'ai pas jeté de pierre. Voilà. Ce qui en dit long aussi sur l'humilité avec laquelle il a abordé ça. C'est un exemple, de récit qui est extrêmement puissant et beau et bouleversant et qui peut toucher tout le monde indépendamment de sa foi ou pas ou de sa culture.
Voilà. Et puis je rassure les gens. Donc évidemment, c'est une entreprise littéraire au meilleur sens du terme et qui n'amoindrit en rien tout ce que nous croyons, tout ce que nous voulons, tout ce que nous avons appris. Hein. Au contraire, je pense que c'était vraiment très utile. difficile d'avoir recours à une nouvelle traduction des évangiles. Donc je rappelle, donc collection blanche de Gallimard, donc les évangiles traduits par Frédéric Boyer, avec une passionnante préface d'une centaine de pages que je recommande chaudement. Voilà, et donc merci beaucoup Frédéric Boyer d'être intervenu chez moi là. Et donc bon vent à ce livre et à bientôt.
Eh ben à bientôt, merci beaucoup.